Vous écoutez le Libre Journal des Cultures et de l'Exploration dirigé par Pascal Morer, assisté de Michel, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, jeudi 24 mars 2022 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans le Libre Journal des Cultures et de l'Exploration où je me réjouis toujours de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel, tout comme Michel, ma fidèle assistante. Bonjour Michel. Alors pour cette émission qui a lieu en temps de carême, il m'a paru approprié de réaliser un Libre Journal de l'aventure, mais au sens spirituel du terme, tout en nous rendant à la fois en Judée, en Galilée, mais aussi en Hollande, à Amsterdam, comme vous le verrez. Pour ce faire, je commencerai en vous lisant une citation que j'ai empruntée d'ailleurs à l'un des ouvrages de mon invité, une citation de François de la Rochefoucauld. « S'il y a un amour pur et exempt du mélange de nos autres passions, c'est celui qui est caché au fond du cœur et que nous ignorons nous-mêmes. » Je vous propose ainsi de nous accompagner dans cette grande aventure spirituelle qu'elle réside au sein de notre quotidien ou à travers deux femmes mystiques, l'une connue de tous, d'ailleurs plus ou moins bien, à savoir Marie-Madeleine, l'amie fidèle et proche de Jésus-Christ et la première personne témoin de sa résurrection, comme nous en reparlerons tout à l'heure. Et puis l'autre jeune femme du XXe siècle, Ethil Soum, pas forcément encore bien connue de tous, bien que de nombreux ouvrages lui soient maintenant consacrés, mais qui mérite de l'être, tant elle peut servir de modèle pour les femmes et les hommes de notre temps. Alors, pour évoquer tout cela, j'ai la très grande joie de recevoir aujourd'hui Cécilia Duterre. Bonjour, chère Cécilia.
Bonjour Pascal, bonjour à tous, ravie d'être ici sur votre antenne.
Soyez la bienvenue donc sur ce plateau. Alors pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, je vais préciser que vous êtes romancière et essayiste, auteur d'une vingtaine d'ouvrages et présidente de l'association des Amis d'Ethil Soum. Alors j'ajouterai que dotée d'une solide formation juridique, vous êtes également membre de l'association des philosophes chrétiens, vous avez été chroniqueuse dans plusieurs journaux, vous êtes également critique littéraire pour le mensuel Service littéraire et vous êtes membre du jury de 5 prix littéraires. Un beau parcours donc, hein, qui fonde, je trouve, votre légitimité pour traiter de l'aventure spirituelle sans être pour autant une théologienne. Alors je vous reçois aujourd'hui pour plusieurs de vos ouvrages, essentiellement vos dernières parutions, à savoir Patience du quotidien paru chez Salvator en janvier dernier, donc ouvrage auquel nous allons consacrer notre première partie d'émission, mais aussi L'Amoureuse, le roman de Marie-Madeleine, publié chez Talendier en août dernier. Et enfin, pour évoquer Ethil Soum, nous nous référons à l'un de vos ouvrages plus anciens, intitulé Ethil Soum, une voix dans la nuit, également paru chez Talendier, et à savoir qu'il y a tout récemment, en 2020, une édition poche qui est parue, et qui est tout à fait bien faite et bien sûr fidèle à la première édition, sachant que vous en aviez publié deux autres, comme nous l'évoquerons d'ailleurs un petit peu plus tard. Alors je vous propose d'emblée, Cécilia Duterre, de commencer notre émission avec votre dernier ouvrage intitulé « Patience du quotidien », donc paru chez Salvator. Vous nous proposez un recueil de chroniques relatant des instants de vie glanés et vous nous invitez à découvrir cette dimension spirituelle de la vie de tous les jours en posant un regard émerveillé sur notre quotidien pour mieux le réenchanter. Alors ma toute première question sera la suivante, quelle a été l'idée de ce livre, Cécilia Duterre ?
Oui, alors l'idée de ce livre, effectivement, c'est des arrêts sur image, en fait, effectivement, des instants de vie glanés de nos vies quotidiennes, parfois très prosaïques, parfois même anecdotiques, mais entrer un peu en profondeur, en fait, ne pas rester à la surface des choses. L'idée du livre, c'est de mettre l'accent sur le décalage entre l'hyperaccélération du temps, l'hyperactivité, la fébrilité, l'impétuosité dans laquelle nous vivons, l'homme moderne vit, qu'on le veuille ou non, parfois on le subit, mais on est obligé de vivre dans cette hyperaccélération du temps et en même temps opposé à cette hyperaccélération le temps de Dieu, cette éternité, cet infini, ce temps éternel, ce temps hors du temps que nous tend, sans mauvais jeu de mots, Dieu, et dans lequel aussi on peut se fondre, on peut essayer de relativiser en fait tout ce que l'on vit et justement le remettre à plus haut pour essayer d'y trouver un sens, hein, avec un grand S.
Alors j'ai relevé une de vos phrases que je trouve très éloquente. Chacun de nous a une mission sur Terre, la trouver, la poursuivre constitue notre métier d'homme. J'ai trouvé ça très joli et très fort. Revenons au titre, si vous le voulez bien, Patience du quotidien. Alors pourquoi ce choix de titre ?
Alors parce que la patience, c'est vrai que ça demande, c'est tout de suite, on a l'acception, la première acception, c'est l'effort que ça nous demande, c'est la persévérance, c'est savoir ne pas se décourager, c'est aussi attendre en gardant son calme. Autant, donc pour moi, c'est une vertu cardinale en fait, pour bien affronter le quotidien. Et en même temps, c'est une vertu qu'on n'a pas du tout l'habitude justement de cultiver dans ce monde moderne où tout va vite. Les délais de transport, l'accélération du temps grâce à Internet. Alors, ça nous aide à plein de choses et en même temps, on vit dans une espèce de fébrilité permanente. Et donc, voilà, l'idée de ces billets était de remettre ça dans un contexte plus large, qui est la vie, avec un grand V, la vie majuscule, la vie qui nous traverse et qui est beaucoup plus grande que nous, qui nous prolonge aussi. Et voilà, et donc toujours affûter notre regard, en fait, pour trouver, parce que moi je trouve que tout est spirituel finalement, tout ce que l'on vit est spirituel, et voilà, toujours essayer, vous savez, les auteurs en fait c'est un petit peu ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils regardent le monde, ils constatent, ils écoutent, ils observent beaucoup, et creusent ensuite, qu'est-ce qu'il y a derrière le voile, qu'est-ce qu'il y a sous la surface des choses, et c'est un peu l'idée du livre en fait. J'ai fait une analogie entre le déroulé d'une vie d'homme et le déroulé d'une journée, et j'ai donc découper en fait ce recueil en quatre grands titres, si j'ose dire. L'aube, et puis ensuite l'heure méridienne, ensuite l'après-midi et puis le couchant. Et prétexte à donner des chroniques sur ce quotidien. Alors évidemment, l'aube, bah, ce sont nos commencements, nos balbutiements, nos erreurs, nos... Voilà.
Alors, si vous le voulez bien, ça, on va en parler un tout petit peu après. Je voudrais quand même que vous commenciez en nous lisant la citation que vous avez mise en exergue de votre livre de Rilke, de Rainer Maria Rilke, qui est absolument très belle et très éloquente aussi.
Tout est d'abord mené à terme, puis mis au monde. Attendre en toute humilité et patience l'heure où l'on accouchera d'une clarté neuve. C'est cela seulement qui est vivre en artiste, dans l'intelligence des choses comme dans la création. Et c'est tiré donc de Lettre à un jeune poète.
Le fameux, voilà. Et je trouve cela important parce que vous mettez cette très belle citation en exergue de votre livre. Et puis chaque partie, donc parmi ces quatre parties, donc quatre à la fois époque de la journée et temps de l'âge d'homme, sera également précédé de citations, dont une sur Saint-Exupéry, là je repense à l'émission précédente, et une autre de Lao Tzu que je trouve très très belle aussi. Je la cite tout de suite, allez, je la dis, je me fais plaisir. La seule façon d'accomplir est d'être. Voilà, c'est tellement fort. Alors revenons donc à l'aube, effectivement, ce moment de l'enfance. Il y a donc plusieurs chroniques. J'ai particulièrement apprécié une consacrée aux messagères des anges, en l'occurrence les mésanges, où vous écrivez « Célébrer en toutes circonstances l'incandescence de l'instant alors que la journée a très mal commencé et que tout s'est vraiment mal goupillé, on va dire. Vous êtes de mauvaise humeur et tout à coup, voilà, la grâce qui vient à travers ces mésanges. »
Voilà, j'entends piailler des mésanges, j'entends piailler des oiseaux et je me retourne et le soleil inonde la chambre. Et dans le grand hou qui est face à ma chambre, je vois des dizaines de mésanges qui piaillent et qui volettent. Et tout d'un coup, je les regarde et je me dis, mais en fait, quelle simplicité. En fait, elles vivent, évidemment, ces petites mésanges, elles vivent la vie dans un émerveillement et une simplicité absolue. Et je reviens en fait à moi et je reviens à la vie justement qui est beaucoup plus large que mes petits problèmes et voilà et à la joie surtout parce que pour moi les mésanges et les oiseaux c'est aussi la joie, c'est cette façon extrêmement simple, complètement béotienne de vivre. Oui. Et en même temps, cette naïveté aussi, cette enfance, c'est aussi ça les billets plus largement dans ce titre L'Aube, c'est des billets sur ce regard d'enfant un peu émerveillé sur la vie, innocent, naïf oui. parfois, oui. et parfois qui nous fait faire des erreurs, mais bon. Erreur bienvenue pour apprendre, et qu'on oublie après un peu quand on grandit et auquel on devrait revenir peut-être plus souvent.
Alors grandissons, passons à l'heure méridienne, l'âge adulte. Une belle chronique sur la révolution amoureuse, enfin vous l'intitulez révolution amoureuse, l'engagement et la fidélité au sein du couple. Alors est-ce un rêve, une utopie? Alors peut-être, écrivez-vous, mais n'est-ce pas précisément la marque des grands aventuriers? Et cela, bien sûr, nous touche dans cette émission, que de poursuivre, fort de leur foi en des valeurs supérieures, coûte que coûte, un idéal.
C'est sûr, je pense que le couple, c'est la grande aventure du 21e siècle, à l'heure où il y a d'autres billets justement qui parlent de la révolution amoureuse, mais là je mets des guillemets, qu'ont instauré dans nos vies les réseaux sociaux, et à cet amour, si on peut parler d'amour, un peu... je mets des guillemets consommation, qui moi, évidemment, n'est pas forcément ce que je souhaite. Et c'est vrai que je mets en avant le couple dans la construction.
Et dans la durée.
Et dans la durée, oui. Les deux sont liés. Hein.
Absolument.
Mais et aussi le dépassement, effectivement, parfois des difficultés, parce qu'une vie de couple, il y en a.
Ouais.
Et en même temps, je parle de mon cas, moi je suis mariée depuis 30 ans, donc je sais qu'il peut y avoir des moments de crise, mais en même temps, la beauté aussi de les dépasser, en tout point, pas que dans le couple d'ailleurs, et la façon de faire grandir aussi le couple après avoir rebondi, si j'ose dire. Et oui, moi je crois beaucoup à la construction d'une façon générale et à la durée, et justement ce recueil sur la patience
c'est aussi, la durée aussi.
C'est implique la durée, bien sûr, exactement.
Alors, bien sûr,
et la persévérance.
Et une autre patience très importante aussi qui suit le couple, forcément, qui en est la conséquence directe, c'est le fait d'attendre un enfant.
Oui.
Et là, vous écrivez une chronique très belle, intitulée d'ailleurs « Deux en une », sur l'attente de l'enfant. Voilà. Et ça, elle est vraiment très, très, très juste.
Je pense que toutes les mamans qui ont porté un enfant le comprendront. C'est vraiment un moment très particulier, la grossesse. Alors, dans mon cas, c'était double patience, parce qu'il y avait les 9 mois de patience, ça c'est classique. Et en même temps, moi, j'ai eu des grossesses un peu compliquées, allongées. Donc, je dis que ce temps, en même temps, était aussi un moment où il y a eu un dialogue incroyable avec cette petite fille que j'attendais, ces deux petites filles que j'ai attendues, avec lesquelles il y a eu un dialogue et presque une fusion. En fait, c'est vraiment un moment très particulier où on ne se sent plus seul, où justement la solitude existentielle qui est le propre de la condition humaine, tout d'un coup on a l'impression que c'est aboli, que vraiment on dialogue avec cette petite merveille qu'on a au cœur de soi, et en même temps aussi avec l'étincelle divine qui a permis ce miracle qu'est la vie au cœur de soi. On a cette chance, nous les femmes, de porter la vie. C'est vraiment le terme, porter la vie, et on le ressent si bien pendant ces 9 mois, ce soleil et cette merveille qu'on a au cœur de soi.
Je ne peux que agréer à ce que vous dites. Alors passons maintenant à l'après-midi, à cet âge mûr qui arrive. Une nouvelle, puisque l'âge mûr, pour notamment les femmes, mais les hommes aussi maintenant s'y mettent, il y a le problème des traits, des rides qui arrivent. Et vous avez une nouvelle que vous avez carrément intitulée Botox. J'ai compris qu'il est là, le secret de la sérénité intérieure. Et ça, c'est aussi, je trouve, très parlant. Accepter ce qui est et advient sans chercher à tout prix à changer le cours des choses sur lesquelles nous avons si peu de prise.
Oui. Et sur nos rides.
Quelle sagesse.
Je ne sais pas si c'est ça, je crois que c'est de toute façon, on ne peut que accompagner le mouvement. Et d'ailleurs, c'est le mouvement de la vie que de l'accompagner. En l'occurrence, oui, Botox, c'est, c'est sur l'idée que de toute façon, les rites sont aussi l'expression de ce que nous avons vécu, en fait, tout simplement.
Notre géographie intérieure qui se révèle finalement à l'extérieur.
Exactement,
en quelque sorte,
exactement. Hein, ouais.
Et alors, vous évoquez, alors, ça, chose moins gaie, la dépression, bon, la maladie, voilà, cette maladie. Et puis, et là, je voudrais que nous nous y attardions un tout petit moment. Vous parlez de votre spiritualité, dont croyant n'est pas sachant, pardon, je vous cite. Hein. « La spiritualité est pour moi la face la plus lumineuse de nous-mêmes, cette face solaire, émerveillée, joyeuse, amoureuse de la beauté et de la poésie de la vie, capable de percevoir la part sacrée que recèle toute chose. Le terme Dieu, qui est ristant de gens en guerre contre les religions, relève d'une quête de l'homme qui dépasse de loin le cadre confessionnel et peut emprunter des chemins à dogmatiques personnels et singuliers. » Voilà, j'aimerais pouvoir m'en expliquer, mais il ne m'en laisse pas louer. Bon, là, vous parlez de quelqu'un avec qui vous êtes en pleine discussion. Et je voudrais en profiter pour vous interroger justement sur votre travail d'écriture. Ouais. Pour vous, à vous lire depuis un certain temps. Excusez-moi. J'ai vraiment l'impression que votre écriture s'inscrit dans une quête spirituelle.
Oui, mais complètement. En fait, c'est même le prolongement de ma quête. Pour moi, écrire, vraiment, c'est pour ça que j'ai une ligne très marquée en spiritualité. C'est que vous parliez de mission. Moi, je pense que voilà, pour moi, écrire, c'est aussi transmettre. Alors, parler aussi, on en parlera tout à l'heure, mais de voix plus grande que la mienne. Hein. Marie-Madeleine, oui. Etilsoum, voilà, c'est me faire à mon tour passeuse, hein, si j'ose dire. Mais par ailleurs, bien sûr, c'est un prolongement de ma foi, presque une prière, hein, dans Patience du quotidien, il y a un côté très méditatif, enfin surtout sur la fin, sur le couchant, dont on parlera ensuite, mais il y a des billets assez méditatifs, contemplatifs, qui pour moi peuvent se référer à une forme de prière, en fait. L'émerveillement sur la vie, c'est aussi une forme de prière. Hein. La foi, c'est quelque chose qui nous accompagne tout au long de nos vies, c'est pas juste aller à la messe, c'est pas juste les prières rituelles, la prière c'est quelque chose qui nous accompagne dans la vie. Donc moi, évidemment, ma vie de tous les jours, c'est écrire. Hein. C'est mon métier, je mets des guillemets à
quel
métier.
Quel beau métier, Cécilia.
Parfois, c'est ingrat. Hein.
Oui, on l'imagine.
Mais c'est vrai que c'est aussi un moment où on se relie d'abord à son centre, à soi-même, dans l'intériorité, dans une sincérité, une authenticité, parce qu'écrire, c'est être authentique. Et dans ce centre, eh ben, il y a Dieu aussi, il y a cette étincelle divine avec laquelle on tente de dialoguer et voilà, et de se faire aussi la plume de ce que l'on ressent, perçoit de plus grand et qui nous traverse, ça aussi.
Et d'où l'importance d'écrivains voilà, tels que vous, et je pense que Bernanos serait bien sûr le premier auquel on pense, sur cette importance de vie intérieure. Hein.
Vous êtes gentil, mais voilà, je me mets pas.
Je ne fais pas de comparaison, mais je dis
pas. Voilà, pour moi, c'est un maître, Bernanos, Mauriac, Claudel.
À notre heure, voilà, je trouve que votre écriture a du prix. Alors, ce regard spirituel, donc, que vous posez, non. Alors, excusez-moi. Avant cela, évoquons effectivement le dernier paragraphe, le dernier chapitre concernant le couchant, donc la vieillesse. Alors, pour ce faire, c'est vrai qu'on a décidé toutes les deux qu'il serait intéressant pour nos auditeurs que vous nous lisiez carrément une chronique intitulée donc Mouvement perpétuel. Voilà, donc je vous propose de nous la lire, Cécilia.
Avec plaisir. Mouvement perpétuel. Assise sur les galets de la plage du Havre, je contemple la Manche qui s'étale à perte de vue. Sous la nébuleuse ivoire qui revêt partiellement l'azur, telle une robe de mariée dentelée, perce quelques îlots bleutés. Jouant avec l'ombre des nuages et le soleil, l'immensité aqueuse se pare de mille tonalités, passant tour à tour de l'anthracite à l'émeraude, du bronze au turquoise des lagons. Mystérieuse, infinie, à chaque instant la physionomie de la mer change. De gros rouleaux se fracassent sur la grève dans un tonnerre d'écume, brisant par leur violence le rythme régulier des vagues de plus faible intensité. Fascinée, je regarde l'inlassable mouvement de la houle. Paradoxe de cette répétition sans cesse différente qui illustre à la perfection le principe de l'impermanence des choses, si difficile à admettre pour nombre d'entre nous. Cependant, lorsqu'une vague s'échoue en se retirant, elle participe par cette impulsion à l'enfantement de la suivante. Allégorie de la vie, où rien ne meurt vraiment, tout se transforme et interagit pour renaître autrement. Illustration du triomphe des forces de création sur celles de destruction. Sans doute devrions-nous prendre exemple sur la sagesse de la mère, qui accueille avec placidité le changement dans ses entrailles, nous invitant à faire ce nécessaire et constant travail de deuil au sein de nos existences. Imiter la souplesse et l'adaptabilité de l'eau, apprendre à ne pas nous accrocher à l'ancien, ni à projeter d'attente sur l'avenir, accompagner en confiance l'élan universel qui bouleverse en permanence les événements, les êtres, les pensées, les actions, et aimer le miracle éternellement renouvelé de la vie qui se déploie sous nos yeux émerveillés.
Merci beaucoup Cécilia Duterre. Je rappelle que cette magnifique chronique donc, fait partie de la quatrième partie intitulée « Couchant » de votre livre « Patience du quotidien » édité chez Salvator. Michel, nous avons un message je crois.
Oui en effet, oui. D'un auditeur, émission passionnante. Comme disait Mauriac, notre espérance ne concerne pas seulement l'éternité, elle concerne aussi le sombre monde des vivants. Seul ce que l'on accepte change de sens.
Merci infiniment, cher auditeur. Alors Cécilia Duterre, ce regard donc spirituel que vous posez sur notre quotidien en évoquant donc le cours supérieur des choses qui permet de prendre le recul nécessaire et salvateur face aux événements et à l'impermanence des choses, eh bien nous allons le retrouver chez une toute jeune femme qui l'a si bien compris et vécu dans des conditions absolument ultimes, j'allais dire, Eti Hilsum, donc dans au cœur des Pays-Bas occupés par les nazis. Auparavant, je voudrais que nous fassions une petite pause musicale avec une musique donc, que vous nous avez proposée de votre choix, Cécilia Duterre. Très jolie musique du cœur de Thésée qui chante un extrait donc, d'une fameuse prière de Sainte Thérèse d'Avila en espagnol. Je vous laisse peut-être donner le titre.
Nada te turbe, ça c'est en espagnol, oui. Que rien ne te trouble en français. Et les paroles, les premières paroles, peut-être on peut les citer à l'antenne, vous voulez?
Oui, ou alors après peut-être,
après,
pour l'écoute d'abord.
Avec plaisir.
Voilà.
Thank you.
Voilà ce magnifique chœur de Thésée, donc, chantant un extrait d'une prière de Sainte Thérèse d'Avila. Si vous voulez nous lire cet extrait, peut-être en français,
oui,
Cécilia Duterre.
En français, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Qui possède Dieu, rien ne manque, Dieu seul suffit.
Magnifique.
Oui, magnifique, c'est magnifique. Très, magnifique. Des paroles très consolantes, oui. et très belles et très vraies.
Et réconfortante par les temps qui courent.
Oui, c'est vrai.
Voilà, c'était aussi donc, en guise de transition, hein, après avoir évoqué Patience du quotidien chez Salvatore. Voilà, nous allons évoquer maintenant un personnage, une mystique, je pense qu'on peut le dire, vraiment, Ethyl Soum, à laquelle vous avez consacré donc, 3 essais. Donc le premier, Ethyl Soum, une voix dans la nuit, édité chez Talendier. Un cœur universel, regard croisé chez Salvatore. Là, il s'agit de plusieurs auteurs de confessions différentes donc, qui mettent leurs avis hein, sur Ethyl. Et puis enfin, Vivre libre avec Ethyl Soum, édité de nouveau chez Talendier, qui a reçu d'ailleurs en 2018 le prix humaniste Louis Marin, une petite merveille aussi dans laquelle vous donnez beaucoup de clés pour nous aider dans notre quotidien, justement aussi dans nos vies. Mais avant d'en parler, présentez-nous Ethyl Soum, Cécilia Duterre, qui est-elle ?
Alors, Ethyl Soum, c'est une jeune femme juive de 27 ans qui, pendant que les Pays-Bas sont néerlandaises, que les Pays-Bas sont occupés par l'ennemi nazi, entre 1941 et 1943, va tenir un journal et une correspondance. Correspondance envoyée du camp de transit de Westerbork, qui était un camp qui rassemblait toute la population, enfin, les nazis rassemblaient toute la population juive de Hollande. Il y avait 4 camps, mais c'était le principal, pour ensuite les convoyer dans les camps de la mort. Et donc, cette jeune femme juive, elle subit donc, la montée des mesures ségrégatives quand elle est encore à Amsterdam. Et puis, elle sait aussi qu'à terme, elle va être envoyée dans ce fameux camp de Westerbork pour ensuite être envoyée. Alors, elle dit des camps à l'Est. Elle ne sait pas ce qui l'attend, mais enfin, elle imagine. Et donc, elle tient son journal, mais son journal nous parle d'abord d'elle-même et pas tant du chaos historique au départ,
alors,
que de son propre chaos.
Justement, alors son propre chaos. Elle vient de quelle famille ?
Alors, elle vient d'une famille juive assimilée, qui n'a pas du tout été élevée dans le judaïsme. Elle n'a pas du tout, d'ailleurs, la foi au départ de son parcours. Je l'ai dit, elle a 27 ans, elle était étudiante, elle doit arrêter ses études, elle était étudiante en
droit.
En droit, oui, justement. Et elle doit arrêter ses études parce que, justement, sous l'occupation, les juifs n'ont plus le droit d'aller, n'ont plus le droit de rien. En fait, pour être simple, elle ne peut plus circuler, elle ne peut plus aller donc à l'université, elle ne peut plus se ravitailler dans les magasins dits traditionnels, mais voilà. Et en fait, donc au cœur de ce chaos historique, elle nous parle de son propre chaos, elle va très mal. Elle est, on peut dire, dépressive pour simplifier, mais elle souffre de 1000 maux, elle est boulimique, elle a à la fois... ce grand pessimisme en elle et en même temps quand même une force de vie et elle se perd, elle a un vide existentiel abyssal et elle essaie de le combler tant bien que mal par les conquêtes amoureuses.
Alors, juste une petite précision pour comprendre peut-être ce mal-être profond qui est en elle, qui vient du contexte familial aussi, hein, puisqu'elle a une mère quand même très caractérielle, qui n'est pas facile du tout à vivre, et puis 2 frères qui sont eux-mêmes
schizophrènes.
Alors, il y en a un qui, en revanche, est un virtuose du piano.
Oui, mais qui a ce caractère extrêmement
donc
difficile.
Donc on comprend, voilà, ça permet vraiment de comprendre aussi que pour elle,
elle a effectivement grandi dans cette atmosphère familiale hyper compliquée, avec cette mère tyrannique, vous l'avez dit, un père un peu falot, qui est un peu faible, donc avec qui elle s'entendait relativement bien, mais alors complètement athée en plus, qui ne creuse pas du tout l'existence, et puis ses 2 frères extrêmement compliqués à vivre parce que schizophrène. Donc à 27 ans, pourtant c'est une adulte, mais c'est encore presque une adolescente dans sa tête, mal dégrossie si j'ose dire, et qui en proie à un mal-être très profond. Et sur les conseils d'amis, elle va aller frapper à la porte d'un homme qui s'appelle Julius Speer, qui est psychologue d'inspiration jungienne.
Et ça, c'est important.
Très important.
Et pour quelle raison ?
Parce que ouvert justement aux religieux, pas tant aux religions qu'aux religieux, qu'aux spirituels. Ouais. Et cet homme, c'est un juif aussi beaucoup plus âgé qu'elle, hein, mais qui est réfugié allemand, qui est réfugié à Amsterdam et qui vient d'ouvrir un cabinet secondaire dont on parle pas mal. Il y a tout un aéropoche comme ça de femmes, de patientes qui...
Parce qu'il pratique en plus, je crois qu'il est chirologue. Alors, qu'est-ce que c'est que...
Alors, la chirologie, c'est pas la chiromancie. Hein,
non.
Mais c'est quand même la lecture dans les mains du caractère des gens. Alors, il avait ce, on va dire, science, mais je mets guillemets quand même sur le mot science. En tout cas, il avait cette faculté, ce potentiel, et il était très magnétique, cet homme. Il avait quand même, peut-être même était-il un peu médiumnique, mais je me suis toujours posé la question. En tout cas, il avait cette capacité de lire les autres. Et elle y va sans trop y croire, et elle lui tend ses mains, et il la lit, mais alors comme dans un livre, et il voit en elle le chaos. Et il voit aussi le potentiel extraordinaire qui n'est pas déployé, qui est bloqué. Et il lui propose, et il la décrit. Et donc, elle est tellement étonnée de voir que cet homme qu'elle ne connaît absolument pas la lit si bien.
Et la comprend.
Qu'elle décide de remettre sa vie, rien que sa vie, entre ses mains pour faire une analyse avec lui.
Alors, je vois que l'heure passe. Donc, nous allons faire une toute petite pause. Cher Michel, je vous donne la parole.
Oui. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des cultures et de l'exploration, du jeudi 24 mars 2022, dirigé par Pascal Morère, assisté de Michel. Le thème de cette émission est l'aventure spirituelle au sein du quotidien et à travers Marie-Madeleine et Eti Ilsoum, en compagnie de Cécilia Duterre. Notre invitée est Cécilia Duterre, romancière, essayiste et présidente de l'association des Amis d'Eti Ilsoum. Pour les ouvrages « Patience du quotidien » paru chez Salvatore et « L'amoureuse », le roman de Marie-Madeleine chez Taillandier et « Une voix dans la nuit » chez Taillandier. Le site de Cécilia Duterre...
Qui est fort bien fait, j'insiste.
Cécilia-Duterre, D-U-T-E-R.fr.
Merci beaucoup, cher Michel. Donc, chers auditeurs, je vous rappelle que l'émission est en direct et que nous serons ravis d'avoir vos réactions. Voilà, alors revenons à Eti Ilsoum, là où je vous ai interrompu. Donc
Julius elle commence Speer, une thérapie
voilà,
avec ce fameux Julius Speer, qui donc essaye de comprendre comment l'aider. Et comment l'aider, déjà, c'est apprendre à s'aimer, apprendre à accepter ses défauts et faire la paix avec le passé. Donc ça, c'est les premières choses, évidemment, de la thérapie. Et il lui fait tenir un journal en tant qu'outil d'introspection. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'elle commence à écrire.
Cette idée géniale pour
oui,
nous.
Et ça tombe tellement bien qu'elle voulait écrire. Elle voulait être écrivain. Et elle avait, d'ailleurs, ce don magnifique d'écrire, parce que ces pages sont... Certaines des pages du journal sont vraiment très poétiques, très belles.
Une qualité littéraire, hein, vraiment.
Oui, et une très grande... Bah, alors là, c'est un journal, mais évidemment, une très grande authenticité aussi, sincérité. Oui. C'est aussi pour ça qu'on le lit avec, je dirais, facilité, proximité avec elle, c'est que elle se livre.
Et oui.
Voilà. Et donc, à travers ce journal qu'elle va tenir pendant 2 ans et demi et cette correspondance ensuite envoyée du camp de Westerbork, eh bien, alors elle s'épure d'abord, elle apprend effectivement à accepter ses erreurs, à s'accepter telle qu'elle est. Et puis progressivement, il va lui... alors, une amitié aussi, et même un amour, parce qu'elle va tomber follement amoureuse de lui. C'est la seule chose qu'elle sait faire à l'époque, Eti Ilsoum, c'est tomber amoureuse.
Donc, évidemment, c'est aussi une grande amoureuse. Enfin, je dis aussi parce qu'en référence à Marie-Madeleine, dont on va parler plus tard.
Oui, c'est une grande amoureuse, mais elle ne trouve pas dans les multiplicités des conquêtes amoureuses qu'elle ne comble pas, en fait, ce vide. Lui comprend que ce vide ne peut être comblé que par Dieu que par le spirituel. Et, mais il faut qu'il amène. Et alors, lui, c'est un homme, et évidemment, il est plus âgé qu'elle, et en même temps, bah, voilà, elle est très attirante. Donc, une histoire d'amour, on va dire, charnelle, en tout cas, va avoir lieu entre eux. Mais très vite, il va rediriger, en fait, la relation vers une amitié, et, parce qu'il sait qu'il va la, sinon, il va la freiner. Et vers une amitié, elle va être aussi son assistante pour... plein d'autres choses, parce qu'il écrit beaucoup aussi, lui, sur cette science. Oui. Il faut dire que c'est les premières analyses. Hein. On n'est pas... Et en plus, on est en pleine occupation, oui. en pleine guerre. Donc, c'est très particulier. Mais voilà, donc, se noue entre eux une amitié très forte. Et il va l'ouvrir progressivement au spirituel. Alors, il va lui donner à lire la Bible. Très étonnamment, il est juif, mais il lui donne à lire des lectures chrétiennes, d'abord. Alors, la Bible, les évangiles, Saint-Augustin qui va avoir un rôle majeur hein, dans l'évolution spirituelle, dans l'itinéraire spirituel d'Etilsoum. Et puis, ils vont parler aussi des heures de lecture plus... en même temps, enfin, qui ont un sens, c'est-à-dire, par exemple, Rilke, dont vous parliez tout à l'heure, qui va devenir vraiment le compagnon de route d'Eti, Dostoïevski, enfin des lectures, vous voyez, d'auteurs qui ont un arrière-fond spirituel important. Et donc elle comprend qu'à travers eux et à travers les conversations qu'elle a avec cet homme, qu'il y a un double degré de lecture, non seulement de ses œuvres, mais un double degré de lecture de la vie. Et on parlait tout à l'heure de surface et profondeur. Elle comprend la profondeur et elle comprend que, grâce à lui et grâce à la thérapie, qu'il existe un centre au cœur de soi dans lequel on peut justement se retrancher. Qu'au cœur de ce centre, il y a plus grand que soi au cœur de soi. Et progressivement, elle va, à la faveur de toutes ces lectures, comprendre, dialoguer avec cette étincelle divine au cœur d'elle-même, qu'elle va appeler Dieu, mais qu'elle n'appellera pas Jésus, elle n'est pas chrétienne. Elle a aussi d'autres, on a découvert qu'elle avait eu aussi d'autres sources d'inspiration spirituelle. Elle avait lu notamment des écrits de sagesse orientale. Et on retrouve d'ailleurs dans son croire et dans beaucoup de choses tout au long du journal, effectivement, une perception de la spiritualité qui a beaucoup d'inspiration différente, comme si elle faisait un peu un pont entre la conception occidentale chrétienne et la conception plus orientale, plus abstraite, entre guillemets, de Dieu et, ou de la transcendance, pour être plus général. Et donc c'est très intéressant, évidemment, je pense qu'elle arrive, alors après donc elle dialogue et puis elle...
Et alors là, je vous interromps, pardonnez-moi, mais parce que je pense que c'est vraiment un élément important sur ce dialogue. Voilà. Elle dialogue avec plus grand que soi, au cœur de soi. Il y a quand même cette référence chrétienne que je trouve très forte. Et je pense forcément, et vous l'évoquez, je crois, à Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila qui vraiment parle effectivement de cette cellule à l'intérieur de nous-mêmes et dans laquelle elle dialogue avec Dieu. Donc pour elle, c'est l'oraison puisque c'est quand même le maître de l'oraison, Sainte Thérèse d'Avila. Et puis également Edith Stein qui sera donc Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix qui est contemporaine à Etilsoum. Et d'ailleurs, je crois qu'elle doit être dans le même camp de Westerbork sans se rencontrer malheureusement. Et elle écrit, Edith Stein, Dieu est en nous, il suffit que nous apprenions à construire en nous une cellule pour s'y retirer. Écouter au-dedans de moi-même, voilà, et Dieu écoute et là. Et je trouve que ce dialogue, vraiment, encore une fois, qui pour moi évoque l'oraison, est quand même très chrétien chez Etilsoum.
Oui, oui, tout à fait. On peut retrouver des inspirations chrétiennes. Et c'est vrai que nous, avec nos yeux de chrétiens... j'avais quand même écrit ce livre, oui. Etilsoum, une voix dans la nuit, à la base. Il était paru en 2010 chez Robert Laffont. Là, il est reparu chez Talendier, c'est vrai, en poche. Mais, et pourquoi je l'avais fait? C'est parce que, quand même, au départ, Etilsoum, quand elle était connue que des chrétiens. Et ils avaient tendance à enfermer son croire, justement, dans une spiritualité chrétienne. Or, je pense que c'est plus large que ça. Après, il est vrai qu'on retrouve des influences. Et d'ailleurs, encore une fois, elle avait lu la Bible, les évangiles, donc oui. Ça l'a forcément influencée. Mais là où je vous suis totalement, et d'ailleurs, j'ai un chapitre là-dessus dans le livre, il y a beaucoup, beaucoup de points de concordance avec Edith Stein, mais qui était juive, convertie.
Et voilà, elle convertie, et carmélite.
Et carmélite. Ouais. Effectivement, elles vont se croiser au camp de Westerbork sans le savoir. Hein, mais
ça, c'est incroyable.
Bah oui, c'est incroyable. Mais voilà, elles auraient eu beaucoup de choses à se dire. Et là où on retrouve vraiment...
Bon sujet de roman, hein, Cécilia.
C'est vrai. Merci de me donner l'idée, pourquoi pas. C'est vrai, il y aurait vraiment des choses à dire là-dessus. Bah, en fait, elle partage une chose, mais qu'ont beaucoup de grandes mystiques, c'était cette capacité à creuser toujours plus profondément leur intériorité, hein, ce monde intérieur, ce centre, comme l'appelle Julius Speer, mais qu'on appelle nous, chrétiens, on va dire, intériorité, dans laquelle effectivement se loge Dieu. Mais son acte de résistance spirituelle héroïque à Etiel Soum, c'est qu'ensuite, elle devance l'appel, si j'ose dire, de sa convocation, et elle va aller au camp de Westerbork comme volontaire pour aller aider les siens, ses pères juifs déportés. Elle va les aider, elle dit « mon frère consiste à être là ». C'est-à-dire qu'elle va juste les aider avec son empathie, sa gentillesse et sa foi qu'elle a maintenant au fil de la thérapie complètement qui est devenue sienne en fait. Et son acte de résistance héroïque, c'est qu'au cœur de cette tragédie absolue de la Shoah, elle a gardé, elle a non seulement trouvé Dieu, mais gardé, conservé Dieu au cœur d'elle-même et... Pour même être plus large que Dieu, l'idée de la beauté de la vie. Mais c'est pareil, ça se rejoint. Et elle arrive à louer la beauté de la vie au cœur du camp et à irradier cette magnifique spiritualité, cette humanité merveilleuse dont elle rayonne autour d'elle.
Et alors, je veux dire que, oui, vous parlez effectivement de la beauté de la vie et qui est associée au sens de la vie. Parce que pour l'être humain, comment vivre quand la vie n'a plus de sens et qui a priori est le cas dans ce genre de situation, bien sûr, et puis on pense à d'autres contextes aujourd'hui, arriver malgré tout à trouver ce sens à travers la beauté de la vie, sans mièvrerie aucune.
Oui, dans le non-sens absolu qu'est la Shoah, qu'est le camp, qu'est les barbelés, qui sont les barbelés, elle, en gardant l'idée du beau, l'idée de Dieu, c'est pas l'idée, en dialoguant avec Dieu, eh bien elle garde le sens justement avec un grand S dont on parlait tout à l'heure, et parce qu'elle se situe quelque part, et on en parlait aussi dans Patience du quotidien, c'est toujours cette idée qu'il y a le conjoncturel, elle est dedans, elle est bien là, et effectivement elle est dans le terrestre, et Dieu sait qu'elle y est, puisque justement elle prend vraiment la Shoah en plein but, si j'ose dire. Mais en même temps, elle est consciente de ce cours supérieur des choses, de cette vie majuscule qui va la prolonger, elle est consciente de sa mort, elle a un regard sur la mort absolument extrêmement
lucide. Et une acceptation incroyable,
comme vous dites, de ce qui est. Oui. Et ce qui est, là en l'occurrence, ce qui l'attend, c'est la mort. Mais elle arrive aussi à vaincre la peur de la mort en acceptant justement l'idée de l'inéluctable.
Et ça, c'est très fort.
C'est d'autant plus fort
à
29 ans, c'est la fin du journal, mais c'est vrai qu'elle est très jeune.
On voit vraiment son évolution spirituelle fulgurante.
Deux ans et demi, fait le chemin en deux ans et demi que nous ferons...
Toute une vie, on l'espère.
On l'espère peut-être en toute une vie, mais c'est vrai aussi qu'il y a une urgence, qu'elle est consciente qu'elle va mourir, et que justement, je pense que ça accélère énormément la maturation de tout ce qu'elle a théorisé à Amsterdam avec Julius Speer. Après, elle passe à la pratique dans les camps. Et là, il est bien beau de parler du mal théoriquement, mais quand le mal, vous le subissez tous les jours et vous êtes sous le joug des capos nazis, là, c'est quand même un petit peu autre chose.
Alors voilà, là où je voulais aussi en venir, c'est sa réaction face au mal. Pour le coup, très chrétienne, puisque vous écrivez, elle comprend que la haine, le ressentiment est à la fois dans le cœur du bourreau et de la victime, et qu'il faut quitter cet engrenage de la haine pour choisir l'amour, voilà l'ultime liberté et l'ultime résistance. Ça m'a terriblement fait penser à Matthieu 5, lorsque le Christ dit, bon, je cite juste le début, hein, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Alors, importe la personne, ce qu'elle fait, c'est arriver à ça, c'est quand même non seulement un acte d'ultime résistance, mais un acte, j'allais dire, d'ultime amour universel. Et elle y arrive.
Il y arrive réellement. Il y arrive. Et alors là, saint Augustin l'a beaucoup aidé aussi hein, sur cette question de la haine et de l'acceptation et de la d'aimer l'autre, y compris quand il est un ennemi. Alors elle comprend aussi qu'effectivement la haine est logée dans le cœur du bourreau et dans le cœur de la victime en réaction des mauvais traitements qu'on lui fait subir, et que la seule issue possible pour éviter l'engrenage, c'est d'extirper la haine du cœur de l'homme, en fait. Donc, tout commence par soi-même. Pour Etilsum, en fait, tout commence par soi-même. Et ça, elle le comprend même de la thérapie, puisqu'elle s'épure d'abord son propre chaos, elle l'épure, et il n'y a qu'elle qui a pu le faire, aidée, bien sûr, par cet autre qui est Julius Speer, mais tout commence par soi-même. Et c'est vraiment un enseignement majeur, en fait, de ses écrits. Effectivement, pour pouvoir espérer laver le monde du mal avec un grand M, il faut d'abord commencer par l'expurger de son propre cœur. Et c'est ce qu'elle et elle parvient à le faire. C'est-à-dire que ce ne sont pas des mots. Elle y parvient à
c'est
le faire.
C'est ça qui est très très fort parce que c'est plus humain, c'est surnaturel.
Oui, mais c'est pour ça que c'est une mystique et c'est aussi pour ça que beaucoup de gens. Maintenant, elle est quand même assez connue et la prennent pour guide parce que il y a une proximité avec elle. Ça n'est pas une sainte.
Voilà.
Au sens où nous, chrétiens, l'entendons, c'est-à-dire qu'elle part quand même de quelque chose de très humain, d'un chaos, c'était une grande amoureuse, elle est très agaçante au début du journal.
Oui, c'est vrai.
Parce que effectivement...
Alors, je vous interromps, excusez-moi encore une fois, décidément, mais quand vous dites au début du journal, c'est-à-dire que le journal qui est le plus abordable pour nous, c'est l'ouvrage intitulé « Une vie bouleversée ». Ce n'est pas l'intégralité du journal, hein, parce que je crois qu'il y a 10 cahiers, donc c'est quand même énorme, mais « Une vie bouleversée », donc pour les auditeurs que cela intéresserait, est vraiment la première approche de
voilà,
son
c'est
journal,
une première hein. approche, c'est intéressant, c'est un journal partiel, intéressant, mais c'est vrai que bon, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut lire les écrits d'Etilsum qui sont publiés au Seuil aussi. D'ailleurs, les deux. Une vie bouleversée sans poche. Donc, effectivement, on peut commencer par là, mais c'est vrai que pour comprendre vraiment l'itinéraire, fait d'avancer et de retour en arrière, comme tout itinéraire, c'est ça aussi. Le journal, il est intéressant parce qu'elle avance. Tout d'un coup, on croit que elle a atteint une étape, et puis deux jours après, et ben, finalement, elle se rend compte que ce n'est pas si simple. Et c'est ça que je trouve très beau aussi, parce qu'une vie n'est pas linéaire. Et sa vie, même sur 2 ans et demi, comme elle nous la partage, elle n'est pas linéaire. Mais elle est ascendante et elle arrive à un sommet fulgurant, comme vous avez dit. Et voilà, elle est très, très. Et alors, elle est très, très aidante aussi dans nos vies, hein, parce que son journal, ses écrits, fourmillent d'enseignements.
Alors, à ce propos, voilà, je voulais vous demander son message d'aujourd'hui, le témoignage et le message qu'elle nous laisse, à nous, contemporains de cette époque. De notre époque.
Je dirais d'abord commencer par soi-même, comme on l'a dit, pardon, excusez-moi, et puis, enfin, selon son itinéraire, commencer par soi-même, puis se tourner vers l'autre, puis essayer de toucher ce que moi j'ai appelé dans Vivre libre avec Etilsum l'absolu, c'est-à-dire essayer ensuite de dialoguer avec cette étincelle divine au cœur de nous-mêmes, ce dont on parlait tout à l'heure dans Patience du quotidien. Voilà, être à l'écoute de cette grande vie qui nous traverse et savoir aussi qu'elle nous envoie des signes. Dieu nous envoie des signes aussi par plein de mystères, mais qu'on peut essayer de saisir. Elle nous enseigne une chose très importante, accepter ce qui est. Elle nous enseigne... alors après, il y a 1000 enseignements hein, dans le journal.
C'est vrai que dans son journal et dans Vivre libre, avec Etilsum, donc votre ouvrage, votre dernier ouvrage, c'est vrai que vous évoquez différents points. Hein, donc, on en parlait tout à l'heure, vaincre la peur en consentant à l'inéluctable, vous en parliez. Et ça, c'est vrai que depuis ces 2 ans de Covid, la peur est très présente dans nos sociétés. Donc, je trouve que c'est tout à fait éclairant, se sentir inconditionnellement relié à tout être.
Oui.
Poser un regard d'artiste sur toute chose. Donc là, ça on retrouve l'idée de la beauté, de trouver la beauté, le sens des choses.
Tout à fait.
Voilà. Et la poésie aussi, parce que je trouve que c'est plein de poésie. D'ailleurs, tout comme votre ouvrage, Patience du quotidien, il y a beaucoup de poésie aussi.
C'est gentil.
Et enfin, dialoguer avec plus grand que soi au cœur de soi. Je trouve cette expression très belle.
Oui, parce que c'est vraiment une conversation qu'elle a avec le... Alors elle appelle Dieu, mais elle peut l'appeler aussi le grand flux, elle peut l'appeler le cosmos. Vous voyez, c'est très large en fait.
C'est pour ça que tout le monde peut justement se retrouver.
Mais complètement, c'est très universel. Est-il sous, mais elle a vraiment une universalité dans son croire. Nous, chrétiens, elle est très facile pour nous, effectivement, parce qu'il y a cette inspiration que l'on ressent. Hein. Mais beaucoup, beaucoup de bouddhistes la lise, parce que justement le grand flux, le cosmos, ça leur parle. Elle a aussi ce degré d'abstraction qu'elle, voilà, très beau. Elle a cette acceptation de ce qui est, ça c'est complètement oriental, hein, dans cette façon de, habiter sa solitude intérieure, écouter sa voix intérieure, ça parle vraiment à tout le monde. C'était l'idée de Un cœur universel, regard croisé sur Est-il Soum, qui était paru chez Salvator en 2013, le troisième ouvrage que j'avais fait sur Est-il, c'était de croiser plusieurs regard confessionnel, vous l'avez dit, sur la spiritualité d'Eti, sur cette foi lumineuse, et savoir comment elle pouvait parler au cœur d'un musulman, d'un juif, d'un chrétien, et puis aussi c'est un regard d'un bouddhiste, hein, et puis aussi un regard, des regards transverses, un psychanalyste, Jacques Arène, qui est très connu, qui nous avait aussi donné un texte de sa perception de ce parcours fulgurant de 2 ans et demi, comme ça, ce parcours d'individuation, hein, qu'on appelle ça comme ça en psychanalyse, et puis un regard aussi très intéressant philosophique d'Emmanuel Jafflin sur le parcours d'Est-il Soum.
Très très complet finalement.
Très complet, j'espère. Mais c'était l'idée d'un collectif. Moi, j'ai dirigé, en fait, j'avais fait la partie chrétienne et un peu la partie judaïque en interrogeant Delphine Horviller, qu'on connaît bien, hein, sur qui a une vision aussi d'Eti. Alors, parfois, les Juifs ont un peu du mal avec Est-il Soum, parce que cette espèce de louange de la beauté de la vie au cœur des camps, c'est compliqué à comprendre aussi pour les enfants de déportés. Je peux le comprendre. Moi-même, j'ai une mère juive, hein, je suis catholique. J'avais un père catholique et je suis catholique, de confession catholique, mais je peux tout à fait comprendre, puisque j'ai un pied un petit peu dans les deux confessions, si j'ose dire. Je peux tout à fait comprendre que ce discours puisse être un peu compliqué à comprendre, mais en tout cas, il est quand même édifiant et magnifiquement beau. Hein.
Alors, avant que vous nous parliez de l'association des Amis d'Est-il Soum, je voudrais quand même préciser pour ceux de nos auditeurs qui ne l'ont pas lu encore, et notamment dans son journal, il est vrai que peut-être que le premier tiers est un peu déroutant. Voilà, là, on voit effectivement cette vie chaotique, donc ça peut-être dérouter et il ne faut pas s'arrêter là, il faut absolument persévérer. Ça a été mon cas, hein, très franchement.
Oui, mais beaucoup de gens me disent ça. Alors, il y a des gens qui se reconnaissent dans ce chaos et puis d'autres qui ont du mal à entrer dans le journal. Mais c'est ça qui est intéressant, il faut le lire quand même, parce que pour comprendre l'itinéraire, il faut voir d'où elle part. Et elle part vraiment d'un chaos très profond, d'une dépression très profonde, mais après tout aussi que beaucoup de contemporains peuvent se reconnaître dans ce chaos. Je trouve intéressant de voir que justement, elle ne sort pas de ce chaos. Alors effectivement, il y a la thérapie, mais en fait, ce qui la fait véritablement sortir du chaos, c'est la spiritualité, c'est la foi, c'est cette grandeur de la vie qu'elle comprend et tout d'un coup qui l'envahit, c'est-à-dire que la beauté de la vie aussi, c'est être vivant. Donc c'est ça qu'elle comprend. Et donc je trouve qu'elle est aussi très aidante pour tous ceux qui traversent une crise existentielle. Et on est nombreux à traverser des crises existentielles dans nos vies. Hein. Ça fait même partie généralement de nos trajectoires. Elles ne sont pas toujours aussi chaotiques, heureusement.
Non, heureusement. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on est particulièrement, entre guillemets, gâtés de ce point de vue-là.
Hein. C'est sûr. Et d'ailleurs, je sais qu'elle est très lue en ce moment, et elle a été beaucoup lue. Alors nous, Association des Amis d'Est-il Soum, on l'a beaucoup fait vivre sa pensée. Alors là, pour le coup, c'était par Internet.
Dites-nous justement, vous qui en êtes la présidente.
Oui, alors c'est une grosse association qui comprend à peu près 800 adhérents, qui est reconnue d'utilité publique. et qui a plusieurs antennes en région, un siège à Paris, qui a aussi une antenne au Canada et au Québec. Évidemment, notre mission, c'est faire connaître Est-il Soum et surtout diffuser son message d'amour, son message de paix, ses écrits. Alors, à travers des manifestations, moi, je donne beaucoup de conférences depuis des années, alors sur mes livres et aussi en tant que présidente.
Vous êtes un auteur quand même qui est très proche de ses lecteurs.
Bah, c'est le but quand même. Quand non, on c'est écrit, c'est aussi, se relier aux autres. C'est aussi ça, l'écriture. C'est une conversation qu'on propose et une réflexion. Et puis, les autres s'en emparent pour eux-mêmes aller plus loin que vous-même. Hein. Enfin, c'est vraiment le but du... Surtout en spiritualité, là, vraiment. Oui. C'est... Et puis, on donne... alors, normalement, chaque année, on donne une journée annuelle qui est un colloque à Paris, donc sur un thème, un angle de la pensée d'Est-il Soum. Cette année, c'était au mois de novembre, c'était combattre le mal avec Est-il Soum. Là, c'était vraiment d'actualité. Voilà, mais ça peut être...
Le prochain aura lieu
le 27 novembre et tout le monde est bienvenu. On n'est pas obligé d'être adhérent et ça se passe au centre Vincentien rue de Sèvres.
Oui.
On a un site amidestilsoum.com, voilà. Donc de toute façon, tout sera sur le site avec le programme. Le thème, je peux déjà l'annoncer, ce sera Corps, âme, esprit chez Est-il Soum.
Magnifique.
Voilà, donc alors les intervenants, je suis en train de les chercher. Ouais. Bon, moi, je donnerai certainement aussi une conférence dans ce cadre-là, comme je fais toujours. Et puis, on a une journée d'amitié en région. Donc là, cette année, ce sera à Amiens au mois de mai. Et là, c'est vraiment une journée de plus pour faire connaître vraiment Est-il à ceux qui ne la connaissent pas encore, pour dialoguer. Nous avons des groupes de lecture aussi en région qui travaillent sur les écrits d'Est-il, justement de comment on peut s'en emparer dans nos vies pour comment ça résonne en fait en nous. Et voilà, donc on fait beaucoup de choses, hein, on fait beaucoup de choses. Mais on peut alors voilà. Et puis alors le site amidestilsoum.com recense tout ce qui se fait sur Est-il. Donc les livres, il y en a pas mal, des conférences, les spectacles, beaucoup de spectacles de théâtre qui tournent en France ou à l'étranger, des documentaires, voilà, des lectures publiques. Donc si ça vous intéresse, allez regarder, le site est assez complet, très bien fait, très dense, très riche. Il y a aussi des conférences qui sont mises en ligne, voilà, beaucoup de choses.
Donc rappelez-nous le site.
amidestilsoum.com. Ami au pluriel. Et Est-il Soum, tout attaché, évidemment.
Bien sûr, très bien. Écoutez, je vous propose à nouveau d'écouter un extrait de musique avant d'aborder l'amoureuse, avant d'aborder le roman de Marie-Madeleine. Et là, vous nous avez proposé Chopin.
Oui.
Le nocturne numéro 13. Pour quelle raison ?
Eh bien parce que on parlait des frères d'Est-il Soum. Donc parmi eux, il y avait Micha qui était effectivement un pianiste virtuose, vous l'avez rappelé, et il adorait Chopin. Et il y a une photo très célèbre d'Est-il qui écoute son frère en admiration devant ce pianiste et qui est penché sur son frère au-dessus du piano. Et on imagine qu'ils étaient en train de jouer.
Et cette photo d'ailleurs figure Chopin. Dans votre livre, hein, Est-il Soum, une voix dans la nuit.
Oui, c'est une jolie photo, tendre entre frères et sœurs.
Écoutons Chopin.
Thank you.
Voilà, chers auditeurs, un magnifique extrait du nocturne numéro 13 de Chopin pour faire notre transition entre Et il sum, donc mystique. Cette lumière dans les ténèbres, qu'elle fut hein, par son parcours de libération intérieure, son ouverture à l'absolu. Voilà, et j'aimerais maintenant que nous évoquions Cécilia Duterre, une autre mystique, celle-ci d'un temps beaucoup plus ancien, hein, puisque c'est du temps de Jésus-Christ. Marie-Madeleine, à laquelle donc, vous avez récemment consacré un ouvrage intitulé « L'amoureuse » et sous-titré « Le roman de Marie-Madeleine » édité chez Talendier. Alors cette femme libre et passionnée, qui a également connu donc, un parcours d'élévation spirituelle foudroyant et qui, elle aussi, eh bien, nous propose un exemple inspirant pour notre modernité. Alors vous avez rédigé un très très beau roman dans lequel vous donnez chair à cette immense figure de l'Évangile, qualifiée d'apôtre des apôtres par la tradition évangélique, et qui va approcher si près du cœur de Jésus qu'elle va en être son amie la plus proche, amie IE. Hein. Et je trouve que vous nous permettez, à travers le regard de Marie-Madeleine, eh bien, de connaître de l'intérieur Jésus, qui va devenir le Christ, sauveur de l'humanité. Ma première question, c'est de savoir pourquoi vous avez choisi cette fois la forme romanesque et non pas l'essai pour traiter la figure de Marie-Madeleine.
Oui, c'est une bonne question, surtout qu'au départ, la consigne éditoriale, c'était plutôt une biographie. Et en fait, je trouvais que c'est un personnage tellement magnifique, Marie-Madeleine, tellement féminin, tellement flamboyant, que j'ai commencé à écrire et c'est sorti comme un roman, quoi. Et vraiment, je trouvais qu'en plus, ce qui est intéressant dans la figure de Marie-Madeleine, c'est justement les étapes aussi de sa vie. Et je trouvais que le roman pouvait le restituer beaucoup mieux qu'un essai. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'essais hein, sur Marie-Madeleine. Honnêtement, c'est quand même un sujet qui a été beaucoup traité.
Oui, oui.
Et moi,
parfois même de façon ésotérique. Hein,
alors, souvent, parce que j'ai découvert que c'était une grande figure ésotérique, je ne savais pas.
Oui, je l'ai découvert aussi, effectivement.
C'est une grande figure ésotérique. Mais moi, je voulais rester très fidèle aux évangiles, parce que je trouve qu'elle a vraiment quelque chose à nous dire et à dire à notre modernité, tout particulièrement aux femmes. Et je ne voyais pas comment le traiter autrement. Puis moi, je suis romancière quand même, certes essayiste aussi, mais comme vous l'avez dit, je ne suis pas théologienne. Et mon apport, en fait, c'était de la faire incarner, en fait. Et comme le roman était la meilleure technique, si j'ose dire, pour le faire. Et j'ai adoré le faire.
C'est vrai que vous vous intéressez vraiment à la femme, encore une fois, ce que permet le roman, et non pas à la sainte, bien sûr. Hein,
ah oui, je m'intéresse à la femme et à son parcours d'élévation, de libération aussi. Un peu comme Est-il Soum. D'ailleurs, il y a des rapprochements, on peut faire entre les deux.
Absolument, hein, on en parlera parce que j'en ai fait quelques-uns. Ouais. Alors, quelle a été votre démarche? Quelles ont été vos sources, en fait?
Alors, j'ai pas tellement lu sur Marie-Madeleine en tant que telle, un peu, mais pas trop, parce que je voulais surtout pas, évidemment, je voulais faire mon Marie-Madeleine, si j'ose dire, avec mille guillemets. J'ai beaucoup lu, par contre, sur la période, des livres d'histoire, et beaucoup lu aussi sur la vie de Jésus, encore une fois, des livres d'histoire. Et puis surtout, j'ai fait un pèlerinage en Terre Sainte, qui m'a complètement, d'abord, ébloui, qui m'a comblée spirituellement, et puis qui m'a énormément aidée pour l'écriture du livre, parce que effectivement de voir où toute cette grande histoire s'est passée, ça change tout. En fait, pour faire des grands tableaux colorés, romanesques, pour resituer et décrire, en fait. Parce que nous, c'est vrai, on va à la messe et on connaît, en fait, parfaitement l'Évangile.
La parole.
On se la représente, bien sûr. Mais se la représenter, ce n'est pas pareil que de voir où le pays où
le,
ça a eu
le cadre,
la terre, la,
voilà,
terre, la terre,
la terre,
ça, la terre sainte où
absolument,
ça a eu lieu.
Absolument.
Et ça, moi, ça a été tellement un pèlerinage, un moment immense dans ma vie. C'était quelque chose que je voulais faire de toute façon depuis toujours. Donc là, c'était vraiment l'occasion. Et en plus, nous avons été conduits par un prêtre absolument génial qui s'appelle le Père Théo, que je remercie à la fin du livre, et qui était, mais alors, lui-même flamboyant, qui nous a donné énormément de détails historiques et évidemment spirituelle, et qui mêlait les deux. Et c'était donc le voyage de ma vie, je dois vraiment le dire, et qui continue d'ailleurs à m'habiter. Hein, vraiment,
il y a combien de temps vous l'avez fait?
C'était juste avant le Covid, j'ai eu cette chance de pouvoir le faire. Oui, c'est vraiment une grâce. Et d'ailleurs, j'ai écrit une grosse partie du livre, du roman, pendant la période du Covid. Et en fait, j'étais tellement habitée par la sérénité de ce pèlerinage et par la flamboyance et la flamme et la foi de Marie-Madeleine que ça m'a énormément aidée à affronter cette période qui restait quand même difficile.
Tout en vivant intérieurement en Terre Sainte finalement.
Ah bah moi j'étais avec elle, j'étais là-bas en fait.
Et c'est vrai que ça, je trouve que c'est un des intérêts aussi de votre démarche d'auteur, c'est que voilà, vous n'hésitez pas à vous rendre sur place. D'ailleurs, on en reparlera, mais vous êtes aussi allée à la Sainte-Baume, puisque c'est là où elle termine, d'après la tradition provençale, notamment les 30 dernières années de sa vie. Tout comme, bon, on ne l'a pas évoqué, mais vous avez également écrit une très belle biographie sur Flannery O'Connor, et vous êtes déplacée pour écrire cette biographie
dans le vieux sud américain.
Donc voilà, moi ça nous parle aussi dans cette émission, les auteurs qui font la démarche de voyager et d'aller sur place, ce qui donne, je trouve, beaucoup plus de vérité effectivement et d'authenticité à vos écrits. Alors, effectivement, quand on parlait des sources, ce qui m'a frappé, c'est que vous collez quand même, pour un roman, vous collez quand même au plus près des évangiles. On aura l'occasion de citer d'ailleurs certains extraits. La tradition chrétienne, bien sûr, et puis voilà, cette tradition provençale bénédictine de la Sainte-Baume. Alors, revenons donc au personnage de Marie-Madeleine. Vous faites finalement trois figures qui n'en font qu'une.
Oui, mais c'est pas tellement moi qui le fais.
Je
m'empare de la tradition la plus ancienne de l'Église, qui voit trois femmes en Marie-Madeleine, la pécheresse pardonnée anonyme de Luc, Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et Lazare et l'amie de Jésus, et puis la fameuse courtisane de Magdala, et celle à laquelle souvent on réduit le personnage. Et c'est dommage d'ailleurs. Et moi je me suis dit, mais en fait, c'est très intéressant, parce que ces trois personnages, ces trois étapes fondamentales de la vie de cette femme en fait. La courtisane, c'est le début, c'est la séduction dévoyée. Alors moi j'ai imaginé une petite adolescente à qui on tendait donc qui naît à Béthanie, puisque c'est Marie de Béthanie, elle est toute jeune, et la seule chose qu'on lui tend pour sa vie, c'est d'être une mère, une épouse, de donner des fils, au moins un fils à son mari,
et dans un cadre très codifié à l'époque,
extrêmement codifié. Et j'ai imaginé qu'elle était rebelle et qu'elle voulait gagner sa liberté en fuyant le domicile familial et en allant où ça ? Là où justement on est libre, c'est-à-dire sur les rives du lac de Tibériade, dans cette fameuse cité balnéaire de Magdala, à deux pas de Tibériade, la capitale, fief d'Hérode Antipas et donc de la cour où les mœurs sont tout à fait relâchées.
Là, je dois dire que vous faites de très belles descriptions, voilà, qui sont... Là, on trouve le roman, on est plongé dedans. Mais tout de même, il y a de très très belles, effectivement, descriptions. Et puis, vous évoquez toutes ces influences gréco-romaines aussi, de philosophie, qui permettent aussi toutes sortes de comportements.
Voilà, c'est ça. Et où, finalement, effectivement, on est beaucoup plus libre. On vit en esthète, si j'ose dire. Mais elle arrive, elle est jeune, elle est belle, et elle se fait une place à la cour, et elle joue de son pouvoir de séduction, de sa féminité, on va dire, resplendissante, de sa jeunesse.
Alors on le voit d'ailleurs dans la page de couverture que vous avez choisie vous-même. C'est un tableau d'un peintre hollandais, je crois.
C'est Talandier qui me l'a proposé, je dois dire que le choix, j'avais le choix entre deux, et c'est tout de suite celle-là qui s'est imposée, parce que c'est une Marie-Madeleine assez originale et jeune, et j'aime bien, parce que justement, comme moi, je la prends assez jeune
dans le parcours. Elle a 13 ans, je crois.
Elle a 13 ans, et voilà. Et il y a une naïveté dans ses yeux et une interrogation. Oui. Et en fait, c'est tout le parcours de Marie-Madeleine. Elle est très naïve au départ. Elle pense
Et alors, une similitude qui m'a frappée dans la pose, alors il faut vous le dire, chers auditeurs, c'est qu'on la voit et elle s'appuie sur une main, sur sa main gauche d'ailleurs, avec ses doigts donc sur sa joue, de façon un petit peu méditative, tout comme Ethyl Soum d'ailleurs, dans la photo d'illustration c'est d'une vie bouleversée.
Bravo,
étonnant.
Mais c'est vrai, c'est incroyable, je n'ai absolument pas pensé, mais vous avez tout à fait raison.
Oui, Michel, vous avez raison.
Vous écoutez Radio Courtoisie, le livre journal des cultures et de l'exploration de Pascal Maurer, assisté de Michel. Le thème est l'ouverture spirituelle au sein du quotidien et à travers Marie-Madeleine et Ethyl Soum, en compagnie de Cécilia Duterre. Donc notre invitée est Cécilia Duterre, romancière, essayiste et présidente de l'association des Amis d'Ethyl Soum. Les ouvrages sont « Patience du quotidien », paru chez Salvatore, et « L'amoureuse » dont il est question actuellement, le roman de Marie-Madeleine chez Taillandier, et « Une voix dans la nuit » chez Taillandier également. Et le site de Cécilia Duterre est cecilia-duterre.fr.
Et je crois que nous avons un message.
Ah oui, en effet. Alors, un message d'une auditrice, émission passionnante.
Merci,
qui
madame.
Donne envie d'approfondir mes connaissances sur ce sujet et son rayonnement. Merci encore à vous deux.
Merci infiniment, chère madame. Merci. Alors, donc, on parlait de son physique, effectivement. Donc, c'est une très jolie jeune fille, jeune femme. Elle va rester quand même 10 ans à la cour d'Hérode.
Voilà, où elle va effectivement se faire une place de choix, où elle va être cette grande séductrice, cette courtisane. Mais au fond, elle court un peu aussi comme Ethyl Soum, sans doute après un amour plus grand, mais qu'elle ne trouve pas. Elle multiplie, elle aussi... les partenaires.
Elle a une soif d'absolu, finalement.
Elle a une soif d'absolu, elle est très passionnée. Mais finalement, elle cherche l'amour et elle ne le trouve pas, bien sûr, parce qu'elle se rend compte qu'elle fait beaucoup plus le jeu des hommes que son propre désir à elle. Au fond, en étant cette courtisane, elle est une proie à mettre dans leur lit, mais elle court après son propre désir. Et c'est ce qu'elle comprend. Et tout d'un coup, elle se rend compte qu'elle s'est fait un peu berner finalement, que cette quête de liberté qu'elle a recherchée, qu'elle a voulu et qu'elle a cru obtenir, eh bien en fait l'a enfermée encore dans le regard des hommes dont elle est complètement dépendante, c'est le propre du rapport de séduction, et puis l'a enfermée aussi dans son propre ego, ce qui est encore plus grave, parce qu'elle est devenue cette femme un peu narcissique qui s'est perdue dans ce jeu. Et donc, elle est dans une forme de dépression, elle aussi, et c'est à ce moment-là qu'elle... alors, elle a entendu parler de Jésus, parce que Jésus, on en entend de plus en plus parler à cette époque de sa vie, puisqu'il prêche une parole nouvelle, un Dieu nouveau, et dans le pays. Et il se trouve très proche de là où elle est, et c'est là qu'elle débarque dans ce fameux banquet donné par Simon le pharisien,
avec un culot extraordinaire, parce qu'elle est la seule femme, puisque c'est voilà, il y a que des hommes déjà.
Donc elle débarque complètement, absolument pas invitée dans un banquet où il n'y a que des hommes, en effet, sous l'œil absolument médusé de cette assemblée masculine, et c'est là qu'elle va répandre cette fameuse image de Marie-Madeleine qui répand ses larmes aux pieds de Jésus et qui essuie de ce geste incroyable, qui va essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et Jésus ne s'offusque pas de cette conduite, pourtant complètement inédite et même scandaleuse. Il comprend en fait profondément le cœur de sa peine. Il comprend un petit peu tout à l'heure comme, je ne pourrais pas faire la comparaison
bien
avec
entendu,
Julie
Spire,
mais
entendu,
il la perd sa jour. Il comprend qu'elle répand là en fait aussi tous ses regrets, tout son repentir, toute sa peine, son chagrin profond de s'être trompé à ce point, toutes ses erreurs. En fait, il y a tout ça dans ce geste-là. Et lui seul peut le comprendre, et en fait, elle le sait. Et par cette foi qu'elle met en lui, par cet abandon aussi complet, aussi de sa vie à ses pieds, c'est pas rien. Elle s'abandonne à ses pieds, elle essuie ses pieds de ses cheveux, et là, il la prend au cas tel qu'elle est, il la comprend et il la pardonne, mais il lui dit surtout « va et ne pêche plus », c'est-à-dire « ouvre une nouvelle ère de ta vie ». Et ça, c'est très beau, je trouve que c'est vraiment un enseignement magnifique de Jésus, quelque part. Oui, on peut s'être trompé, il y a toujours une possibilité de comprendre profondément ses erreurs et de repartir, à, je ne dirais pas à zéro, mais avec cette compréhension profonde qu'on peut aller vers autre chose.
Bien sûr.
Et c'est ce qu'il lui dit. Ouvre une nouvelle ère de sa vie, et la nouvelle ère de sa vie, eh bien, ça va être accompagner sur les chemins Jésus, qui était entouré, bon, évidemment, des apôtres, mais aussi d'autres femmes.
Hein, Alors, à ce propos, quand je disais que vraiment vous étiez très proche des évangiles, j'ai fait ma petite recherche,
oui.
Parce que vous la rendez très amie avec une certaine Jeanne, femme de Chouza, intendante d'Hérodote, mais effectivement, dans Saint-Luc chapitre 8, on voit effectivement, il est écrit que Marie-Madeleine, Jeanne, voilà, femme de Chouza, et aussi Suzanne et d'autres, bon là on n'entend pas parler de Suzanne, vous ne l'évoquez pas, mais effectivement toutes ces femmes-là sont, effectivement, c'est bien dit dans l'évangile.
Absolument. Oui, alors je reprends, moi je m'en pars en fait de tous les faits de l'évangile, mais après c'est vrai que je les restitue dans quelque chose de très romancé.
À ce propos, effectivement, cette première rencontre avec Jésus, et le fait qu'elle répande ses larmes, c'est surtout dans Saint-Luc. On parle aussi d'un parfum, mais pas de ce parfum, de ce fameux parfum de nard pur de Grand Prix, dont vous allez reparler lors d'une deuxième onction des pieds que vous faites faire à Marie-Madeleine. Et là, c'est vraiment Saint Jean, hein, le chapitre 12, qui va préfigurer finalement l'embaumement du Christ.
Oui.
Et puis aussi peut-être le lavement des pieds. Hein.
Oui, complètement. Alors plus tard, ça c'est beaucoup plus tard. C'est avant la scène.
Lorsqu'elle est d'ailleurs avec son frère et sa sœur, Lazare et Marthe.
Hein. Tout à fait, dans un autre banquet, dans un autre contexte. Donné par un autre Simon.
Aussi.
Oui, mais justement, et là, effectivement, cette deuxième onction de Béthanie, hein, on l'appelle comme ça en théologie, là, elle préfigure tout à fait l'embaumement de Jésus. Et donc, elle se fait prophétesse à ce moment-là, puisqu'elle comprend elle aussi profondément qu'elle est la destinée de Jésus, là où tous les autres ne l'ont pas encore compris. Donc, elle comprend bien avant que Jésus va mourir.
Ça. Donc il y a aussi cette grande compréhension, cette intelligence-là. Ouais. Et alors revenons à cette amitié, cet amour absolu, mais bien sûr pur, au sens d'agapé, mais encore bien sûr dépassé. Il y a quand même cette idée chez vous de cette proximité, de cette complicité, voire de cette complémentarité. Et là, je voudrais en venir à ce message de Jésus qui apparaît, si, on pardonnera l'expression, mais révolutionnaire à l'époque, dans son rapport avec les femmes, dans cette société qui est quand même où la femme a très peu de place. Eh bien, Jésus est bienveillant à l'égard des femmes et il leur parle d'une façon tout à fait naturelle. Et ça va beaucoup dérouter forcément les grands prêtres, etc.
Oui, et puis il ne les enferme pas, il accepte qu'elles viennent cheminer avec lui, parce que donc d'autres femmes cheminaient avec lui, effectivement, et donc il ne les enferme pas non plus dans un rôle de domesticité, si j'ose dire. Donc c'est très intéressant, c'est un grand libérateur des êtres humains en général, mais de la femme en particulier.
Homme-femme, c'est vraiment développé grâce à lui, et c'est la richesse aussi de notre religion.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et le fait est que dans cette amitié magnifique, et dont je parle bien d'amitié, parce qu'à chaque fois on me pose la question, mais alors, est-ce qu'ils ont une histoire d'amour? Donc non, pas à mes yeux. Je suis restée en cela aussi très fidèle aux évangiles parce que tout simplement il avait autre chose à lui apprendre, Marie-Madeleine, et surtout lui, évidemment, il est porteur d'un amour, le Christ est porteur d'un amour beaucoup plus grand qu'un amour terrestre.
Et d'ailleurs, vous écrivez, elle advient à elle-même par un autre, c'est-à-dire donc le Christ, qui la décentre de son ego pour mieux la réunifier et ouvrir un espace neuf de dialogue avec la vie intérieure.
Mais oui, c'est ça. C'est vraiment ça qu'il fait pour lui. C'est-à-dire qu'il la renvoie à sa pleine féminité, sa vraie féminité, qui n'est pas cette caricature de femme dans laquelle elle s'était enfermée. Et c'est là qu'elle est très moderne, Marie-Madeleine. Parce que combien d'amoureuses de notre époque croient gagner leur liberté dans un rapport de séduction parfois très dévoyé, en fait, à l'amour. Et c'est là que je trouve qu'elle est très intéressante. Parce que combien aussi en sont déçus, combien recherchent à travers, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, dans ces amours instantanés et dans cette multiplicité finalement des rencontres.
Et dans l'importance de l'image aussi, donc de la séduction.
Et de l'image, tout à fait, de la séduction et de cette fausse liberté, je dirais, dans laquelle nous vivons et qu'on nous tend en modèle. Ça, ce sont vraiment les diktats sociaux de l'époque, vraiment.
Oui, oui.
Et combien de femmes se déroutent, en fait, de leur véritable désir, qui est souvent, finalement, de rencontrer un amour de construction, quand même. Et donc, c'est vrai qu'il la rend à cette pleine féminité, et c'est vrai qu'à travers aussi, vous l'avez très bien dit, cette amitié entre Jésus-Marie-Madeleine, je pense que les Écritures nous parlent de la complémentarité homme-femme, qui est encore une fois, à notre époque, parfois un gros mot. Je ne vois
on
pas pourquoi.
On a du mal à le comprendre.
Voilà,
mais
tout à fait. Je sais que sur cette antenne, on peut le dire allègrement, mais bien sûr, parle de la complémentarité, de la solidarité entre hommes et femmes à une époque de guerre des sexes, de tendresse aussi, de tendresse, vous disiez l'agapé, mais de cette belle tendresse, bienveillance, et peut-être aussi que c'est ma thèse dans le roman, que Jésus avait besoin de ce regard de tendresse féminin pour l'aider à aller au bout d'une mission qui est quand même terriblement dur. Alors bien sûr qu'il va y aller, mais parfois il va douter. À un moment donné, à Gethsémani, il va douter. Sur la croix aussi, à un moment donné, il doute. Mais il va s'abandonner, il va aller jusqu'au bout, accepter ce qui est et accepter la volonté du Père. Mais en même temps, c'est difficile. Combien c'est difficile, parce qu'il est homme
aussi.
et combien il va puiser dans ce magnifique regard féminin des forces pour aller au bout de cette mission. Et elle le sait, elle a son rôle à jouer. Moi, je crois qu'elle, c'est un personnage très, très important, Marie-Madeleine, un peu effacée, je trouve, pas suffisamment exploitée.
En tout cas, du point de vue théologique.
Peut-être un peu effacé par le personnage de Marie, qui est magnifique, qui est sublime.
Alors ça, on va y revenir. Ou alors j'en profite maintenant,
non, mais
peut-être
vous pouvez
pour le dire. Parce que, oui, enfin, on n'a pas parlé de tout, mais justement, on y reviendra. Mais c'était juste deux bémols, en fait, voilà, en ce qui concerne Marie, la Vierge. Donc on va voir que Marie-Madeleine accompagne donc le Christ Jésus lors de sa passion, que vous dépeignez d'ailleurs de façon absolument bouleversante et qui nous touche tout particulièrement, je dois dire, en cette période de carême et proximité de la Semaine Sainte. Vous la rendez présente mais observatrice à l'écart lors de la Sainte Cène.
Oui.
Ça, j'ai trouvé ça aussi intéressant, parce qu'on n'y pense pas forcément. Et puis, bien sûr, à la croix, donc, avec la Vierge Marie et Jean, Saint Jean, qui deviendra. En revanche, voilà, ce qui m'a un peu gênée, c'est que vous ne faites apparaître dans votre roman la Vierge Marie qu'à la croix.
Oui, petit peu avant, une fois ou deux, mais très peu. C'est vrai qu'elle apparaît peu.
Alors ça, c'est la première chose, mon premier petit bémol à votre magnifique ouvrage. Et le deuxième, c'est pour vous, Marie-Madeleine représenterait la nouvelle Ève. Alors là, je ne suis pas vraiment d'accord, parce que pour moi, la nouvelle Ève, c'est Marie dans toute sa pureté, bien sûr, et sa sainteté. Après, je me suis posé la question, je me suis dit, mais finalement, Cécile Adutère a fait un roman, donc il ne s'agit pas de la sainte, mais de la femme. Alors peut-être, effectivement, est-ce la nouvelle Ève au sens féminin, tout simplement, pécheresse comme nous toutes
Oui, c'était l'idée de tout à fait. Bien sûr que théologiquement, la nouvelle Ève, c'est Marie. Mais quand je parle de nouvelle Ève, c'est vrai que c'est cette nouvelle ère qu'elle ouvre de sa vie et qu'elle nous ouvre en tant que modèle.
Oui, oui.
C'était ça que je voulais dire. Sur le personnage de Marie, vous avez raison qu'elle apparaît peu, elle apparaît au pied de la croix. J'aurais pu et j'aurais dû sûrement, et je n'y ai pas forcément pensé sur le moment, trop accaparée sans doute par le personnage de Marie-Madeleine,
oui,
qui m'a complètement envahie. J'aurais pu les faire dialoguer au pied de la croix, deux femmes. Mais par contre, je parle de Marie quand même à plusieurs reprises, et je dis aux deux extrémités de la vie de Jésus,
oui,
il y a une Marie. Marie, la Vierge, lui a donné naissance,
oui,
naissance terrestre. Mmh. Et Marie-Madeleine, qui est Marie, pour moi, de Béthanie, donc Marie, qui est là au jour de la résurrection, parce que Jésus lui fait l'insigne honneur d'apparaître, et c'est pas anodin, à une femme, et pas n'importe quelle femme, cette femme-là, pour aller porter la bonne nouvelle. Donc, quelque part, aux deux grandes extrémités de sa vie, elles sont là,
elles
les
sont
deux
là.
Et
oui,
ça, j'en parle.
Oui, oui, c'est vrai.
Mais
c'est vrai.
J'aurais peut-être dû les faire dialoguer, c'est vrai, au pied de la croix. Honnêtement, je n'y ai pas pensé. Trop occupée par la flamboyance de Marie-Madeleine.
Vous avez fait relire ou lire votre ouvrage à des moines bénédictins de la Sainte-Baume.
Alors, en fait, à la Sainte-Baume, j'y suis allée plusieurs fois. Ouais, ouais. Et c'est très marrant parce que c'est la Sainte-Baume qui m'a amenée à Marie-Madeleine. C'est-à-dire qu'en fait, il m'avait demandé de venir faire... Vous savez, ils font des formations sur deux jours, etc. Oui. Il m'avait demandé de faire une formation sur Ethyl Soum et de faire un parallèle avec Marie-Madeleine. Et donc, je l'ai fait. Et j'avais pas du tout encore l'idée d'écrire sur Marie-Madeleine. Et finalement, c'est comme ça aussi qu'est venue l'idée. Et puis après, mon éditeur y avait pensé avant moi, je dois dire. Et voilà. Et j'y suis retournée pour faire une conférence sur Marie-Madeleine. Et à cette occasion, bien sûr, j'ai offert l'ouvrage aux Dominicains qui l'ont lu, qui ont adoré. Qui était tout à fait...
C'est ça qui est intéressant, c'est ce regard-là.
J'étais très inquiète.
Oui,
que,
j'imagine.
Mais en fait, c'est comme c'est très fidèle quand même à l'histoire. Ça, ils ont beaucoup aimé. Mais c'est vrai que l'un d'eux m'a fait la même remarque que vous, mais vous auriez pu les faire parler, Marie et Marie-Madeleine, au pied de la croix. J'ai dit, bah oui, pour la prochaine fois, je vous ferai relire avant.
Alors, bon, malheureusement, le temps passe très très vite et Benoît me fait signe que nous n'avons plus que 3 minutes. J'aurais voulu parler de la prière, de la façon de prier, d'aimer le Seigneur que Marie-Madeleine comprend après la résurrection. Elle comprend qu'il n'est plus là, il faut l'aimer d'une autre façon. Et ça, il y a de très belles lignes qui aussi nous touchent, nous, dans notre prière, avec la présence, donc l'oraison, j'y reviens, le dialogue aussi continue avec lui, donc on retrouve aussi, donc, bien sûr, avec
l'union.
L'union, les signes aussi. Cette union donc, qu'elle va vraiment vivre à la Sainte-Baume donc, pendant ces 30 dernières années. Votre dernière phrase, d'ailleurs, ou l'une des dernières que je trouve très belle, dans l'intimité et le secret de l'âme, Marie embrasse l'amour universel dont la fécondité illimitée transcende l'instant en éternité. C'est très très beau. Donc un message aussi qui est très parlant pour notre modernité dans ce fait qu'elle nous est très proche, comme vous nous l'avez dit, qu'elle relaye le message du Christ et qu'elle est féministe dans le bon sens du terme, encore une fois. Donc vraiment merci, grand merci Cécile Duterre pour ces 3 ouvrages. Merci de nous avoir fait partager et connaître tout à la fois ces trajectoires quotidiennes et puis ces mystiques aussi qui nous permettent d'accéder finalement à une libération intérieure qui prend tout son sens en cette période que nous vivons et nous donne les clés de vraie joie, de vrai bonheur dans l'aventure de nos existences. Donc je rappelle vos 3 ouvrages: Patience du quotidien, édité chez Salvatore, Est-il Soum, une voix dans la nuit, édité chez Talendier, et L'amoureuse, le roman de Marie-Madeleine, édité également chez Talendier. Votre site cecilia-duterre.fr. Voilà, grand merci cher Michel, merci Benoît, et bien entendu chers auditeurs, et un immense merci pour votre fidélité, votre écoute et votre aide financière si précieuse pour notre chère radio. Je vous donne rendez-vous au mois prochain, qui sera, je crois, le jeudi 21 avril. À très bientôt, chers auditeurs. Merci à tous.
Merci à vous.
D'entendre le Libre Journal des Cultures et de l'Exploration dirigé par Pascal Morer, assisté de Michel, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 24 mars 2022 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commander le CD-ROM pour le prix front de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.